Bienvenue, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie à Magnificat, l'émission de l'association Marie de Nazareth. Je suis très heureuse d'accueillir en ce 6 juillet Marie-Philippe. Bonjour Marie.
Bonjour.
Avec laquelle nous discuterons d'un sujet complexe, celui de l'accueil de la vie. Quelles sont les causes et les conséquences de l'IVG dans une société et comment l'Église se positionne-t-elle actuellement ? Alors auparavant, je vous invite, chers auditeurs, à vous rendre sur le site de l'association Marie de Nazareth, mariedenazarethletoutattaché.com, ou 1000 raisons de croire, 1000 en chiffres. Vous y retrouverez toute notre actualité, nos émissions précédentes et nos publications. Je vous invite à vous rendre sur notre encyclopédie mariale en ligne, qui est d'une richesse abondante et dans laquelle vous pourrez trouver de très nombreuses réponses à vos questions. Sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui aussi. Alors, chère Marie, vous êtes donc l'auteur du livre « Après l'IVG, des femmes témoignent » et créatrice du site ivg.net. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet un peu particulier, la vie à son commencement et l'IVG. Alors, vous allez vous demander pourquoi dans Magnificat, nous abordons ce sujet. Tout simplement, parce que, évidemment, tout ce qui touche à la vie intéresse la Vierge Marie. Est-ce que vous savez, par exemple, que la Vierge Marie avait évoqué l'avortement dans une de ses apparitions ? Reconnue en 1994, je parle des apparitions, alors il faut que je prononce bien, de Itiparanga, Ipi. Voilà, chaque fois, c'est toujours la même difficulté pour moi. Et donc, voilà, statistiquement, je voudrais faire une précision parce qu'actuellement, le sujet de l'avortement est toujours un sujet un petit peu délicat. Et quand on en parle, nous ne savons pas qui nous écoute. Nous ne sommes pas là pour juger. Nous sommes là vraiment pour parler d'un sujet qui nous tient à cœur parce qu'il touche la vie et que nous sommes bien conscients que... La pensée ambiante est un vrai bulldozer et que, on peut se laisser entraîner dans des idées qu'on n'avait pas forcément au départ. Et nous, de notre côté, vraiment, nous tenons à vous dire que c'est un sujet qui nous tient à cœur parce que ce ne doit pas être tabou. Il faut en parler. Vous voyez, moi-même, je me justifie. Ça prouve quand même qu'il y a une pression dans cette société. Alors, ces apparitions d'Itapiranga qui ont commencé le 2 mai 1994 ont une importance, notamment sur la famille. Elle a été signifiée par la manière même dont la Vierge Marie apparaît à une mère et à son fils et dans la ville natale du père. Pendant la quatrième apparition, le 8 mai 1994, la Vierge apparaît avec un fœtus ensanglanté dans ses mains. Elle pleure afin d'attirer l'attention des mères qui rejettent et ne gardent pas leurs enfants. Elle dit « L'avortement est un péché grave. Ceux qui pratiquent l'avortement doivent se confesser au prêtre avec un profond repentir. Car dans ce cas, les mots ne suffisent pas. » La Vierge de la Tilma, Notre-Dame des Guadeloupe, est enceinte. Et je rappelle le phénomène incroyable qui s'est produit le 23 mai 2007, dont vous avez peut-être entendu parler, que vous pouvez retrouver sur le site Zénith, hein, qui est l'organe d'information sur l'actualité du Saint-Siège. Qu'est-ce qui s'est passé ce 23 mai ? À la fin de la messe offerte pour les enfants avortés non nés, l'assistance de la basilique se demandait ce qu'elle attendait d'elle, la très sainte Vierge de Guadeloupe. Tandis que beaucoup de fidèles prenaient des photographies, exposaient et vénéraient cette tilma dans la basilique, au pied duquel la foule des pèlerins défile sur un tapis roulant. L'image de la Vierge commence à s'effacer pour donner place à une lumière intense qui émanait de son ventre, constituant un halo brillant ayant la forme d'un embryon. Avec un cadrage et un grossissement important, il est possible d'apprécier la position de la lumière qui provient réellement du ventre de l'image de la Sainte Vierge. On a remarqué que ce n'était ni un reflet, ni un artefact. Alors l'ingénieur Louis Giraud, qui a étudié l'image ainsi réalisée, a confirmé l'authenticité du négatif et a pu préciser qu'il n'avait été ni modifié, ni altéré par superposition d'une autre image, par exemple. Voilà, donc il y a quand même eu quelque chose, là encore. Alors, chère Marie-Philippe, nous parlerons donc, comme je le disais tout à l'heure, des causes et conséquences de l'IVG, un changement de mentalité qui a très fortement influencé les populations occidentales, avec cette culture malthusienne, l'écologie, le féminisme mal placé, la liberté, ne pas se sentir à la hauteur, est-ce que je pourrais garder ce bébé ou pas, les époques de crise économique. Voilà. Tout ça, ce sont de vrais vecteurs de volonté de ne pas garder son petit bébé. Vous, vous recevez souvent des femmes au téléphone.
Absolument.
Et est-ce qu'elles sont, vous le sentez dans cet esprit?
Absolument. Le problème, c'est que la société actuellement ne place pas l'enfant comme un don,
Oui.
comme une richesse, on peut dire, et il est souvent présenté comme un gêneur. Et de fait, là, même si la jeune femme est au début heureuse de savoir qu'elle peut porter la vie et qu'elle peut avoir un petit bébé, ensuite arrive des pressions de toutes parts. Et ce que nous voyons, et surtout moi, parce que ça fait depuis 2008 que
Oui.
j'écoute pratiquement très régulièrement ces femmes, surtout au début, nous avions beaucoup d'appels, énormément
Oui.
d'appels. Alors maintenant, ça se fait beaucoup plus par texto, par chat et messages écrits. Les jeunes préfèrent ça.
Ah oui,
Ils ont peur
c'est le moyen de
d'appeler.
communication.
Absolument. C'est les nouveaux moyens de communication.
Mais c'est peut-être en plus anonyme.
Absolument. Voilà, elle préfère. Ce qui est très curieux, c'est que on y sent le nombre de fois où on voit très bien la jeune femme aimerait garder son bébé, mais elle a la pression du conjoint. Alors ça, si vous voulez, on pourra en parler parce que le rôle de l'homme est très important. On a fait des petites statistiques. On a à peu près 80% des femmes qui garderaient leur bébé si l'homme était présent,
D'accord.
si il ne partait pas. L'abandon, tout simplement, quitte la femme ou les divorces à cause d'un petit deuxième, un petit troisième, d'un petit cinquième. Et donc, il y a cela. Ensuite, vous avez la pression de la famille. Il y a toute une génération, quand même, de grands-parents qui ont peur. Ah, oh, mais tu vas pas avoir un deuxième enfant, mais tu es trop jeune. Alors, il y a cette omnubilation de la jeunesse. Et le nombre de fois où je leur dis, vous n'allez pas attendre 45 ans pour avoir un bébé. Parce qu'elles sont. C'est très curieux d'avoir un enfant à 20 ans, 21 ans, 22 ans. Ah non, mais je suis trop jeune. Il faut que je profite de la vie. Il y a un petit peu, si vous voulez, cette mentalité de il faut profiter, il faut s'épanouir. C'est très important. L'épanouissement personnel,
C'est ça.
comme si un enfant allait gêner à l'épanouissement personnel. Comme si, à partir du moment où on a un enfant, on peut plus aller au restaurant, on peut plus sortir avec des amis. Ça va être un gêneur. Alors, vous avez tout cela. Vous voyez, tout ça se conjugue. Après, nous avons aussi un corps médical qui est terriblement frileux. Alors, cela, on peut en
Il est
parler, mais c'est
frileux.
peut-être pas le jour.
Oui.
C'est le nombre de lois qui ont eu lieu. Alors, il y a toujours l'objection de conscience pour les médecins, mais on sent que ils sont pas à l'aise du tout avec ce sujet. Et lorsque une maman demande, même en pleurs, moi je trouve ça hallucinant, mais quand les mamans arrivent en pleurs devant le médecin, pour subir une IVG, moi que j'appelle par comprimé, non pas médicamenteuse, mais le terme est l'IVG médicamenteuse, elles sont en larmes, elles pleurent, elles sont très mal. Et le médecin leur dit, mais dépêchez-vous, j'ai pas de ça à faire, avalez ce comprimé. Vous voyez, il y a, parce que ce qui est très intéressant, c'est que nous avons de plus en plus, et ça c'est nouveau, tout à fait nouveau, c'est depuis 5-6 ans, de femmes qui ont avalé le premier comprimé, le processus commence, le processus de l'IVG, et font demi-tour.
Ah oui.
Alors, elles reviennent vers nous. Alors, on essaie, avec un groupe de médecins, effectivement, de les aider lors d'une prescription de progestérone
Oui, parce que
naturelle.
j'ai regardé les statistiques. En fait, dans 1% des cas, le bébé peut survivre à la à la, après la
Voilà.
prise du premier médicament.
Absolument. Alors, ça dépend la quantité,
D'accord.
l'âge du, c'est un embryon ou un
D'accord.
fœtus. Ça dépend aussi, ça c'est ma petite idée, ma petite statistique, ça dépend aussi du nombre d'enfants que la maman a eu. Si c'est une première grossesse, si c'est une cinquième ou sixième grossesse. C'est
D'accord.
assez intéressant. Mais non, c'est pas l'objet d'en parler maintenant, mais c'est intéressant de voir cela. Ensuite, donc, vous voyez, parce que tout va très, très vite. Et hélas, on a supprimé, notre gouvernement, l'ancien gouvernement, a supprimé le fameux délai de réflexion, qui était de 8 jours. Je dirais que c'était un minimum 8 jours. Et là, ça maintenant, on peut avorter dans la journée, pratiquement.
Oui, d'accord.
Vous arrivez le matin, échographie, voilà, prise de sang, échographie, et ensuite, premier comprimé le soir.
Oui.
Donc, si vous voulez, cet acte de l'avortement est devenu pour beaucoup, et particulièrement pour les jeunes, si vous voulez, un acte banal. Et on a des médecins qui ont le culot de dire « Oh, ce sont que des règles douloureuses. »
Voilà. Mais c'est parce qu'on a banalisé l'avortement. De toute façon, c'était le but.
À la base, c'était certainement le but, oui.
Oui. Alors, nous sommes quand même dans une émission qui s'appelle Magnificat, donc nous allons parler de Dieu. J'avais été très marquée, il y a quelques années, vous m'aviez dit « Quand j'ai des musulmanes au téléphone, elles ont encore le sens de Dieu. Et si je leur parle du bon Dieu, même si le mien n'est pas le même que le leur, elles sont à l'écoute, elles sont réceptives. Est-ce que c'est toujours le cas maintenant ?
Oui.
Toujours.
Ah oui. Il est certain que lorsqu'on a une petite Rachida, Fatima au téléphone, eh bien, personnellement, je me dis ça va être passionnant. On va vraiment pouvoir approfondir. Et surtout, je vais pouvoir les aider parce que le problème, c'est que très souvent, il y a des choses très lourdes, vous voyez, dans la vie du couple, de la famille, la précarité, etc. Et donc, je sais que je vais pouvoir avoir un vrai dialogue et parler de l'embryon et parler de la fornication.
Oui.
Je suis parfois étonnée de voir, pendant les milieux catholiques, où la fornication, les jeunes ne savent pas ce que c'est que la fornication. Mmh. Dans l'islam, je suis désolée, la fornication est un péché. Mmh. Est un péché grave. Donc elles sont vraiment à l'écoute et puis on sent qu'il y a encore ce sens de la famille. En tout cas, il y a encore vraiment le sens de la famille. Du reste, quand par exemple elles sont mises dehors ou reniées par le conjoint, on essaie de leur trouver évidemment un lieu d'accueil et nous travaillons avec tous les lieux d'accueil de France et c'est merveilleux. Mais très souvent, vous voyez, elles n'y vont que 2-3 jours et ensuite elles reviennent dans la famille parce qu'il y a encore ce sens de la famille et ce sens de la vie.
Oui.
Et c'est vrai que dans l'islam, l'avortement, c'est très grave, hein, c'est l'enfer, c'est dit comme quelque chose de très lourd. Mais c'est vrai que dans toutes les religions, de fait, que ce soit les chrétiens, les musulmans, eh bien évidemment, la vie doit être respectée parce qu'ils croient en un créateur. Alors, ce qui est important, là, je suis là aujourd'hui avec vous, mais c'est très important, du reste, au niveau des catholiques, évidemment, et des chrétiens, mais ce que je veux dire, c'est que, de fait, l'avortement n'est pas un acte naturel. Donc, toute femme, vous voyez ce que je veux dire, c'est que l'avortement n'est pas un problème de catholique ou de chrétien. Non, non, absolument pas. L'avortement est un drame naturel, et en fin de compte, c'est la loi naturelle. Toute femme sait ce que c'est qu'un embryon. Et du reste, maintenant, l'échographie, c'est extraordinaire l'échographie, parce qu'on le voit tout petit, on le voit déjà maintenant, dans certaines échographies, on arrive à voir le sexe vers 13-14 semaines. Oui. Vous voyez ? Donc, on voit tout à fait qu'on voit la vie.
Oui.
Donc, et du reste, ce qui, je trouve absolument pas dans la lignée du féminisme, du droit des femmes, de la liberté de la femme, je trouve ça parfaitement inadmissible qu'on ne montre pas l'échographie à une maman qui vient et qui demande l'avortement. Je pense que c'est important de qu'elle voir la réalité, de revenir sur quelque chose de réel. Qu'est-ce que j'ai dans mon ventre ? Voilà. Parce que de toute façon, ce que je vois dans mon expérience, et je peux dire vraiment que j'ai quand même une longue expérience, en post-IVG, qu'est-ce qui se passe après de l'avortement ? Eh bien, elle le recherche. Vous voyez, avant, elle parle d'un œuf. Alors, je ne vais pas vous donner tous les termes, parce qu'il y en a qui sont vraiment pas jolis du tout. Ce truc que j'ai dans mon ventre, par exemple, voilà. On parle d'embryon, après on parle de fœtus, mais après l'avortement.
Elle parle de bébé ?
Toujours.
C'est vrai ?
Toujours le bébé. Elle ne parle que du bébé. Mmh. Je suis obligée de les aider en disant, mais il n'était pas encore vraiment un bébé. Mais dit, voilà, j'ai supprimé mon bébé. Et elles vont regarder. Elles vont regarder, c'est sur Internet, elles vont regarder comment était leur petit embryon. Comment il aurait pu, voyez, voir son développement. Donc, je pense que c'est très important. Et justement, par exemple, pour ceux qui n'ont aucune religion, franchement, des petites mamans qui sont là, ces jeunes que j'ai de 17 ans, 20 ans, 25 ans, je dirais qu'elles sont manipulées par notre société, vous voyez, et c'est surtout pour elles que c'est important de savoir ce qu'elles vont faire et ce que c'est qu'un petit embryon.
Oui. Voilà. Alors, le pape Benoît XVI parle de l'avortement en le comparant à une blessure sociale. Oui. Comment est-ce que vous comprenez cela?
Oui,
comment est-ce que vous le voyez?
C'est tout à fait vrai, parce que ça touche, ça touche toute la société, le problème de l'avortement. Il n'y a pas le fait simplement de la femme qui se retrouve dans une situation désespérée et qui finit par avorter. Ça touche la famille, ça touche les parents, les grands-parents. Ça, c'est clair. Les enfants, alors si vous voulez, il y a ce qu'on appelle les groupes des survivants, parce que c'est vrai que pour un enfant, de savoir qu'il est né parce que sa mère a avorté d'un autre avant les quelques mois qui étaient précédemment, c'est extrêmement dur. Et puis je dirais que c'est vrai que pour un enfant de se dire « Maman était capable de supprimer sa grossesse, là », eh bien ça aurait pu être moi, si vous voulez. Et du reste, on le voit parfaitement après quand on les suit. Les mamans qui ont avorté, eh bien, on voit, du reste, elles le disent, je suis beaucoup plus agressive avec mes enfants qui sont déjà là. Mmh. Je sens que j'ai beaucoup moins d'amour et très souvent, quand on se retrouve là, au moment de l'adolescence, je me dis, eh bien, celui que j'ai supprimé, il aurait peut-être été plus aimable, plus agréable avec moi. Oui. Et ça revient. Donc, si vous voulez, ça touche toute la société et ça touche le corps médical et ça touche... c'est évident. Une société, c'est ce que disait Mère Teresa, on a eu beaucoup de témoins de... qui ont dit attention, attention, l'avortement, à partir du moment où une civilisation, une maman est capable de supprimer le plus faible, le plus innocent qu'elle a en elle-même, eh bien pourquoi demain elle ne pourra pas attenter à la vie de son voisin parce qu'il fait trop de bruit, quoi.
Sa phrase, si nous acceptons qu'une mère puisse tuer son propre enfant, comment pourrions-nous dire aux autres de ne pas se tuer? Comment persuader une femme de ne pas avorter?
Exactement.
Oui. Alors, on va prendre un petit peu de recul avec ce merveilleux hymne à la vie de Gustav Mahler qu'on va écouter à présent.
Der Herr ruht drauf Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Revenons à présent au sujet qui nous occupe aujourd'hui, en compagnie de Marie-Philippe, qui me fait l'amitié d'être à nos côtés aujourd'hui pour parler de la vie. Je rappelle que l'Église est sans aucune ambiguïté sur le sujet. Les papes ont tour à tour écrit des encycliques ou pris des positions claires. Je me souviens de l'avant-dernier voyage du pape François en Belgique, qui avait vraiment comparé la dépénalisation de l'IVG à une loi meurtrière. Il avait été assez clair sur le sujet. Alors, nous parlions donc de cette blessure sociale et de la solitude.
Absolument.
De la femme. Alors, il nous reste 4 minutes, Marie.
Oui.
Parlez-nous de cette solitude et j'aimerais que nous terminions ensuite après avec le positionnement des prêtres vis-à-vis des femmes qui sont dans la douleur. Hein,
parce Absolument. Que... Justement, je pense que là, tous les croyants, en fait, devraient se mobiliser et ne pas attendre d'avoir une mission ou un mandat, parce qu'on est tous concernés de près ou de loin par le problème de l'avortement, et d'être dans cette sollicitude, cette fraternité par rapport à ces femmes qui attendent un petit bébé et qui sont seules. Parce qu'il faut bien se rendre compte...
Et aussi ces femmes qui ont fait ce choix il y a des années.
Exactement.
Et qui le portent encore aujourd'hui. Elles peuvent vous appeler sur votre site.
Mais bien sûr.
Il y a un numéro vert, je crois.
Il y a un numéro vert,
IVG.
Si vous voulez, absolument, 0800-202-205.
Oui,
pas de problème, appelez-nous. Parce que la question, si vous voulez, c'est que la maman, très souvent, elle voit qu'elle est enceinte, et la première chose qu'elle fait, elle fonce sur son ordinateur et elle cherche tous les renseignements.
Elle ne va pas voir un prêtre.
Ah non.
Je pense à la maman Cato, pardon.
Oui, la maman Cato, elle ne va pas voir un prêtre, non. Du reste, les prêtres disent que ils sont très peu sollicités pour le problème d'avortement, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans ou 40 ans. Il y avait des mouvements avant, comme les équipes Notre-Dame ou autres,
oui.
Où justement, dans des mouvements catholiques, les femmes venaient en parler en disant « voilà, j'attends cette grossesse, c'est compliqué, voilà, j'ai beaucoup de soucis ». Et elles venaient en parler aux prêtres. Maintenant, les prêtres, du reste, ils me le disent, en fait, compte, on ne vient pas nous en parler, on ne vient pas... avant, vous voyez ce que je veux dire,
oui.
Le pré-IVG, elles viennent après en post-IVG, mais elles ne viennent pas en pré-IVG.
D'accord.
Et c'est là où il y a quand même un petit souci, je trouve, c'est ils n'en parlent pas. Pourquoi n'en parlent pas? Alors, est-ce une raison politique? Je le crois. Est-ce une raison parce qu'ils ont peur de blesser les femmes qui sont dans l'assistante? Et c'est vrai qu'il y en a sûrement qui ont avorté.
Mais c'est
voilà.
Sûr.
Et donc, ils ont peur de les blesser, donc ils n'osent pas en parler.
Mais
ce que je pense tout à fait dommage, parce que une femme qui a avorté, justement, elle a besoin de pouvoir après en parler avec un prêtre ou pouvoir en s'exprimer. Et puis surtout, il y a toute cette jeunesse qui arrive et il faut leur parler de l'avortement, du drame de l'avortement et surtout de les mettre en garde et de leur dire surtout, si vous avez un problème, si vous vous trouvez enceinte, même si vous êtes une jeune adolescente, surtout, venez nous voir. On va vous mettre en lien avec des personnes. On a, nous, beaucoup de monde, parce qu'on les appelle les bonnes samaritaines et qui aident toutes ces mamans. Parce qu'il faut bien se rendre compte que, actuellement, par exemple, nous sommes dans une grande... Des femmes, en général, elles sont dans une très grande solitude.
Oui.
Très, très grande solitude. Et je suis frappée de voir, là, je suis très en lien avec des pasteurs dans des différentes églises protestantes, et qui osent en parler et qui nous envoient maintenant.
Ils sont beaucoup moins timorés que les prêtres.
Ils ont beaucoup moins,
peur.
Beaucoup moins, je trouve, dans l'ensemble. Dans l'ensemble, on est très peu sollicité par l'Église, officiellement. Ils nous demandent de venir en parler ou de venir même les former. On a eu un témoignage d'une de mes écoutantes qui envoyait donc ses intentions de ses mamans d'avorter dans les semaines qui suivaient. Et elle envoyait ça à un prêtre et à des prêtres. Et un de ces prêtres lui a dit « Ah, mais je ne savais pas, je ne connaissais pas cette détresse. Mais jamais je n'aurais cru que vous avez des femmes qui étaient dans cette solitude, dans cette détresse face à ce choix. »
Alors, pour terminer, j'ai juste une question. Vous allez me dire oui ou non. Est-ce que vous avez un projet de créer une formation pour les prêtres pour qu'ils puissent accompagner ces mamans?
Absolument.
Ah, formidable. Très bien.
C'est prévu.
Eh bien, bravo. Merci beaucoup, Marie. C'était une grande joie de vous accueillir.
Merci, France.
Et on en reparlera très certainement. Je vous souhaite un bon mois de juillet, chers auditeurs, et à la semaine prochaine.